VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Burundi, le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, a estimé inutile ce vendredi de continuer à contester la légitimité de l'élection en 2015 du président burundais Pierre Nkurunziza. Et il a exhorté les parties burundaises à se concentrer sur la bonne tenue des élections de 2020 dans le pays. Ce n'est pas à moi de déterminer la légitimité du gouvernement du Burundi, a déclaré à la presse M. Mkapa au terme d'une visite de 3 jours au Burundi visant à relancer le dialogue dans la crise. Mais l'ex-leader tanzanien a ensuite déclaré « Des ambassadeurs viennent et présentent leurs lettres de créance au président Nkurunziza. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU le reconnaissent comme le président du pays. Nous perdons beaucoup de temps à discuter d'un événement qui est terminé », a-t-il souligné. C'est la première fois que M. Mkapa se prononce de la sorte sur l'issue des élections. Réaction de l'opposition burundaise, les opposants récusent le facilitateur tanzanien avec effet immédiat. En RDC, deuxième jour du nouveau forum à Kinshasa sous l'égide de la CENCO, la conférence épiscopale catholique du Congo, pour essayer de résoudre la crise politique dans le pays. Les participants à ces nouvelles négociations intercongolaises ont mis en place ce vendredi 3 commissions chargées de dégager le consensus sur les points de blocage à la base de l'impasse politique actuelle en RDC. Et ce, à pratiquement 10 jours seulement de la fin du mandat du président Joseph Kabila, qui n'a pas organisé de présidentiel désignant son successeur. Nous avons examiné les listes, validé les mandats et précisé les matières à traiter dans les 3 commissions instituées par les participants, a déclaré l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la CENCO. Selon l'abbé Cholet, la première commission est chargée des questions relatives à la gouvernance après le 19 décembre. La seconde traitera du calendrier électoral et de la séquence des élections. La dernière se penchera sur les mesures de décrispation du climat politique dans le pays. Ouvert jeudi sous l'égide des évêques catholiques, ces négociations sont censées trouver un accord permettant d'organiser une transition jusqu'à l'élection du successeur du président Kabila. Le chef de l'État est au pouvoir depuis 2001, mais son mandat s'achève le 20 décembre et la Constitution lui interdit de se représenter. Les négociations mettent face à face les partisans de l'accord politique d'octobre, passé entre la majorité et la frange minoritaire de l'opposition, autorisant le président Kabila à rester à la tête du pays après le 20 décembre. Et les détracteurs de ce compromis, rassemblés autour de la figure d'Étienne Tshisekedi, opposant congolais historique. Au Nigeria, un double attentat a fait au moins 30 morts et de nombreux blessés. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais Boko Haram, le groupe djihadiste nigérian, est pointé du doigt. Orzuma Compaoré.
Deux femmes kamikazes ont ciblé un marché très fréquenté de Madagali, dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays. Selon un porte-parole de l'armée, Badare Akintoye, elles se sont fait passer pour des clientes avant de déclencher leur ceinture explosive en plein marché. Le bilan est très lourd. Au moins une trentaine de morts et un nombre élevé de blessés. Aucune revendication dans l'immédiat, mais le procédé porte la signature du groupe Boko Haram. Pourtant, mercredi, le président Muhammadu Buhari a déclaré lors d'un sommet sur la sécurité à Dakar que la situation est sous contrôle.
Au Ghana, le candidat de l'opposition à la présidentielle ghanéenne, Nana Akufo-Addo, se dit confiant dans sa victoire. Selon plusieurs médias locaux, il creuse l'écart. Mais la commission électorale n'a publié aucun résultat officiel jusqu'à présent, Nani Talani.
Plusieurs médias locaux annoncent cette tendance. La chaîne privée Joy News, première télévision du pays, réputée sérieuse, affirme que Nana Akufo-Addo est vainqueur. La commission électorale poursuit le dépouillement des bulletins et n'a publié aucun résultat qui ne laisse deviner aucune tendance. Son site internet ne fonctionnait toujours pas, de même que l'application Funs App, prévue pour suivre en temps réel le décompte des voix. Les deux parties se renvoient la responsabilité de cette panne informatique. La présidente de la commission électorale, Charlotte Osei, a demandé à tout le monde d'être patient, soulignant que la précision est plus importante que la rapidité. Cette instance avait annoncé un délai de 72 heures à partir de mercredi soir avant d'annoncer les résultats définitifs. Nana Akufo-Addo, hier soir, s'est dit confiant d'avoir remporté une victoire historique. Le parti au pouvoir a qualifié cette annonce de ridicule.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, le Conseil national de la presse sévit contre trois journaux pro-Gbagbo à 24 heures du démarrage de la campagne électorale pour les législatives du 18 décembre. Il aurait reproché de prendre parti en faveur des frondeurs du FPI, alors que c'est Affine Guessant qui est légalement reconnu comme chef de ce parti, Abdourahmane Dia.
L'organe de régulation de la presse ivoirienne accuse l'un des journaux, La Voix Originale, d'avoir attribué des titres et qualités à des frondeurs du Front Populaire Ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, créant, selon le CNP, un bicéphalisme à la tête du FPI. Et la sanction est lourde, le journal est suspendu pour 26 parutions. LG Information et aujourd'hui écope d'une suspension de 7 parutions pour publication de fausses nouvelles. Ces trois journaux ne pourront donc pas couvrir la campagne électorale pour les élections législatives qui démarrent ce samedi. Ces journaux se disent victimes de menaces graves. Ils sont considérés comme proches de l'aile radicale du FPI qui appelle au boycott des législatives alors que le camp de Pascal Affine Guessant y participe. La Voix Originale et aujourd'hui avait déjà été suspendue en octobre dernier à la veille de la campagne pour le référendum constitutionnel.
Crise migratoire maintenant. Près de 400 migrants ont forcé aujourd'hui la frontière Maroc-Espagne au niveau de l'enclave espagnole de Ceuta. Ces migrants tentaient de se rendre en Espagne dans l'espoir d'un avenir meilleur, dit Lidico.
Environ 400 migrants originaires d'Afrique subsaharienne se sont rués à l'aube sur la barrière entourant l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. C'est l'assaut le plus important depuis plus de 10 ans. Un porte-parole de la préfecture de Ceuta a déclaré qu'il faut remonter au début des années 2000 pour atteindre un tel chiffre. Certains migrants ont assailli la double clôture torse nu ou pieds nus en criant « Espagne ». Suite à l'escalade de la barrière haute de 6 mètres, plusieurs ont été blessés. La Croix-Rouge déclare avoir soigné 103 migrants, dont 25 transférés à l'hôpital pour des points de suture. Ces migrants sans papier tentaient de se rendre au centre de séjour temporaire pour étrangers, espérant pouvoir déposer une demande d'asile. Les ONG de défense des droits de l'homme accusent régulièrement l'Espagne de mauvais traitement des migrants dans les enclaves de Ceuta et Melilla.
Toujours concernant la crise migratoire, au Vatican, réunion de quelques 70 maires européens ce vendredi et demain samedi, dans un forum organisé par l'Église catholique intitulé « Europe, les réfugiés sont nos frères et sœurs ». Objectif plaider pour l'accueil des migrants à l'invitation du pape François, très engagé sur cette question. La maire de Rome, Virginia Raggi, du mouvement populiste 5 étoiles, a donné le coup d'envoi de ces deux jours d'échange en évoquant une urgence de caractère humanitaire et un devoir de solidarité morale. La maire de Barcelone, Ada Colau, ex-militante anti-expulsion portée par une plateforme citoyenne à la tête de la grande métropole de Catalogne, a pour sa part critiqué l'Union européenne en qualifiant le renforcement des frontières de politique raciste et xénophobe. En Corée du Sud, les députés sud-coréens ont voté aujourd'hui la destitution de la présidente Park Geun-hye. C'est la conséquence d'un énorme scandale de corruption qui a précipité dans la rue des millions de personnes et paralysé le gouvernement. Anastasie Toudiech.
Cette destitution fait suite à des manifestations monstres de millions de Sud-Coréens en colère pour exiger le départ de la présidente. Elle est accusée de violation de la Constitution, délits pénaux, corruption et abus de pouvoir. Adoptée par l'Assemblée nationale, la motion de destitution a été soutenue par l'ensemble des députés, rejoints par des frondeurs du parti de Mme Park. Park Geun-hye conserve son titre le temps que la Cour constitutionnelle entérine ou non sa destitution, ce qui pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Après un peu moins de 4 ans de mandat, Park Geun-hye pourrait devenir le premier chef de l'État sud-coréen démocratiquement élu à être démis de ses fonctions. Le pouvoir serait alors confié à son premier ministre, Hwang Kyo-han, un ancien procureur qui n'a jamais été élu.
Et pour terminer, conflit en Syrie, après une interruption de plusieurs heures, l'aviation gouvernementale syrienne a repris ses frappes aujourd'hui sur le réduit rebelle à Alep. Des raids aériens qui avaient cessé jeudi soir après l'annonce surprise par la Russie, alliée du régime, de l'arrêt des opérations de combat de l'armée syrienne dans la grande métropole de la Syrie. Les troupes gouvernementales bombardent aussi violemment à l'artillerie les derniers quartiers aux mains des rebelles à Alep-Est. Le président syrien Bachar al-Assad estime que la reprise de la seconde ville du pays représenterait un tournant dans la guerre civile syrienne. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.